Vous êtes des millions en France à être bénévoles et à consacrer du temps à aider les autres. On estime à 11 millions le nombre d'aidants dans notre pays, chiffre probablement sous-estimé, des bénévoles qui s'occupent de personnes confrontées à la maladie, en situation de handicap ou de vieillissement. L'engagement pour les autres ou pour un proche avec la question centrale de la solidarité et pourtant ce statut d'aidant qui reste peu valorisé dans notre société. La revue Aider, dont le premier numéro paraît aujourd'hui même, a décidé de consacrer sa ligne éditoriale aux solidarités pour accompagner, guider et soutenir les aidants. C'est l'objet cet après-midi de notre Tête au Carré avec mes invités et vos messages sur le site de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, les trois doctorants gagnants du concours Ma thèse en 180 secondes.
Et Mathieu, vous en savez quelque chose puisque c'est vous qui animiez la soirée hier ici à la Maison de la Radio, la finale nationale de ce concours. 3 minutes pour résumer sa thèse devant un public et un jury. On reçoit le podium dans un instant.
Stéphanie Texier réalise l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Benoît Tonson.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La solidarité et les aidants, ce sera donc dans un instant dans notre dossier avec mes invités que je salue. Véronique Châtel, la rédactrice en chef de la revue Aider, bonjour à vous.
Bonjour.
Et le psychologue Jacques Lecomte, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Véronique Châtel, c'est la première fois qu'une revue est entièrement consacrée aux solidarités?
Oui, c'est la première et on est fiers de reconnaître cet engagement envers l'autre, un engagement gratuit envers des autres qui ne sont pas bankable dans une société qui n'accorde de la valeur qu'au productif. Donc voilà, on est content de la sortir.
Premier numéro aujourd'hui dans les kiosques. Jacques Lecomte, notre société est-elle aussi individualiste qu'il n'y paraît?
Non, et puis vous savez, souvent on pense que de mon temps c'était mieux, enfin autrefois c'était mieux, et ça se dit tout le temps, toutes les générations l'entendent, et moi j'ai un grand espoir et une grande admiration devant tout ce que font les jeunes, toute cette génération YZ qu'on a parfois critiquée, et qui ont beaucoup l'esprit de partage, et qui d'ailleurs vient un peu de le partage par les réseaux sociaux, et bien ils le partagent dans la vie en général.
Moi, et les chiffres le montrent, il y a de plus en plus d'engagement d'ailleurs, qui le prouvent.
Absolument.
On va donc se retrouver dans un instant pour parler de la solidarité, de la question de l'empathie, la question des aidants. Et puis bien sûr, vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Hier soir se tenait au studio 104 de la Maison de la Radio la finale du concours Ma thèse en 180 secondes organisé par le CNRS et la CPU. Et nous recevons donc aujourd'hui à la une les trois lauréats de cette édition 2017. Comme chaque année, le défi à relever pour les doctorants était de vulgariser leur thèse pour un public non scientifique et ce, évidemment, en 180 secondes. Voici donc les trois gagnants de la soirée d'hier. On va commencer par le troisième, Olivier Chabrol. Bonjour Olivier.
Bonjour Mathieu.
Qui représente l'université d'Aix-Marseille. Davina Desplan, deuxième prix pour l'université Paris-Seine. Bonjour. Bonjour Davina. Et celle qui a fait coup double, Sabrina Fadloun, premier prix et prix du public pour l'université Grenoble-Alpes. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
On va commencer avec vous parce que vous avez tout raflé hier soir. Vous êtes remis de vos émotions? Comment ça s'est passé pour
vous? Je suis encore sur un petit nuage.
C'est vrai?
Je suis vraiment ravie et puis vraiment très contente de pouvoir poursuivre l'aventure à Liège. Donc je redescends tout doucement.
Ben oui, parce que vous allez représenter la France pour la finale internationale en septembre chez nos amis belges. Axel.
Alors Sabrina, il y a un petit rituel quand on a gagné ma thèse en 180 secondes, c'est de venir donner le titre de sa thèse à ce micro dans cette émission. Donc allez-y, on vous laisse faire.
Alors je travaille sur l'étude d'un procédé de dépôt de films ultra minces de cuivre pour des vias traversants, donc c'est des interconnexions pour les puces de silicium, pour l'intégration 3D précisément.
Et c'est donc en électronique, c'est ça?
En microélectronique.
Microélectronique.
Et c'est un dépôt qui va se faire par MOCVD. Donc ça demande des compétences de physico-chimique et d'ultra-vide, des techniques du vide.
On va y revenir. Davina, à vous de nous donner le titre de votre thèse.
Bonjour. Du coup, moi, je travaille sur les produits cosmétiques. Donc, je travaille sur la caractérisation mécanique et électrique.
Il y a au moins un mot qu'on a compris, c'est cosmétique.
Caractérisation mécanique et électrique des émulsions cosmétiques via une mesure de rhéologie haute fréquence, pardon, donc la microrhéologie.
On comprend mieux pourquoi, en 180 secondes, déjà, c'est difficile de résumer 4 ans de travail. Olivier, c'est votre tour.
Et moi, je propose une méthode informatique de détection de la convergence évolutive au niveau moléculaire.
On va revenir sur ces sujets. Mm-hmm. Peut-être on va plonger dans la soirée d'hier soir avec un extrait de votre prestation. Sabrina, c'était la fin de votre présentation.
À tout problème, il existe forcément une solution. Alors j'ai réfléchi, puis c'est là que je me suis dit, évidemment, je vais entraîner une équipe d'électrons au saut en longueur. Attention, je mets toutes les chances de mon côté. Je recrute une équipe jamaïcaine, je trouve des électrons type Usain Bolt, je les entraîne. C'est gagné, hein. Vous n'avez pas l'air tous convaincus. Moi, je dirais pas que c'est impossible. Mais je suis réaliste. Je sais bien ce qui coince. faut au moins 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques. Moi, en 3 ans, j'ai tout juste le temps d'assurer le bon revêtement, ce qui est continu, homogène, uniforme, sans faille, et qui va permettre aux électrons de sprinter et de pulvériser des records de temps de propagation du signal électrique.
Voilà, Sabrina Bacquière sur la scène du studio 104. Alors, vous avez filé la métaphore, et puis il y a eu aussi une petite chorégraphie. Hein. C'était ça pour vous aussi l'idée, pour résumer votre sujet, c'était de trouver vraiment des angles visuels pour le public.
Faire une analogie avec le quotidien, et puis effectivement essayer d'illustrer le propos pour que justement il se soit accessible par tous les corps de métier, tous les âges si possible.
Mmh. Et donc le sport, l'équipe sportive, c'était une bonne idée ça?
Ouais, je trouve que c'est quelque chose qui parle à tous. Et puis le principe de cette interconnexion, c'est de rendre que la propagation du signal électrique se fasse de plus en plus rapidement. Et c'est vrai que là, j'ai tout de suite pensé à l'homme le plus rapide du monde.
Voilà. Et on a eu même le geste du Sam Bolt.
Ouais. Sabrina, est-ce que vous êtes prête à relever un défi encore plus grand que celui d'hier soir?
Ça dépend. Si c'est un temps plus court, je ne sais pas.
Oui, est-ce que vous seriez prête à vulgariser votre thèse en 30 secondes là maintenant pour nos auditeurs?
Alors, on n'a pas de beeper, on ne va pas vous stresser.
Ah, moi, je regarde la pendule.
On regarde la pendule quand même.
Alors, je dirais de façon très simple que hier, la microélectronique consistait surtout à tenter de miniaturiser. Et aujourd'hui, on est confronté à des phénomènes physiques, économiques, parce que ça a un certain coût. On va tenter de rendre les circuits encore plus performants, mais pas juste en miniaturisant, mais en rendant, en ajoutant différentes fonctions, la diversification fonctionnelle. Et l'astuce, et là pour le coup, on s'est inspiré de l'architecture, parce que l'intégration 3D, ça consiste non pas à juxtaposer les puces de silicium, mais plutôt à les superposer. Et c'est là que la clé, c'est la connexion. Donc ce que j'appelle ces vias traversantes, qu'on appelle les TSV, donc ces vias qui vont traverser les puces de silicium et qui vont permettre d'assurer le contact électrique entre les différentes puces.
Alors ça fait 35 secondes,
pas
est-ce que c'est clair pour le coup?
C'est pas si mal, bien.
Davina, votre univers de thèse, il est à mi-chemin entre physique et cosmétique.
Oui, c'est ça.
Vous cherchez à améliorer les crèmes de beauté, c'est ça?
L'objectif, c'est plus de proposer, comme je dis, à l'industrie, une nouvelle technique pour caractériser avec plus de précision les émulsions cosmétiques dans mon cas, mais plus tard pour caractériser d'autres textures cosmétiques. Donc c'est plus pour aider l'industriel à avoir des techniques pour mieux comprendre ce qui se passe dans leurs émulsions et du coup pour avoir des émulsions plus intéressantes, plus stables et demain réussir à formuler des émulsions sans conservateur, essayer de répondre à la demande des consommateurs d'une manière ou d'une autre.
Ouais, vous avez fait vibrer la peau hier sur scène. Hein. C'était ça, hein. C'était un des termes employés par rapport à votre travail.
C'est plus la vibration de mon quartz exactement qui permet justement de remonter aux propriétés de l'émulsion qui sera dessus.
Olivier, vous êtes le seul biologiste autour avec toutes ces physiciennes. Vous travaillez sur l'émergence de l'écolocation dans l'évolution animale. Qu'est-ce que vous cherchez précisément?
Alors, en fait, l'écolocation, c'est qu'un prétexte. La convergence, on la trouve un peu partout dans le monde des eucaryotes. Et donc, je prends l'exemple de l'écolocation parce que c'est l'exemple le plus parlant qui soit. C'est la chauve-souris, le dauphin ont la même cochlée. Et si on regarde au niveau génétique, ils ont les mêmes mutations génétiques qui concernent le gène qui forme la cochlée.
Donc, pour vulgariser, il faut chercher le bon exemple. C'est un peu ça, ma thèse en 180 secondes.
Oui, bah oui, tout à fait. Il faut un exemple qui parle à tout le monde.
Faut inviter Batman, par exemple. C'est ce que vous avez fait. Voilà, et Robin, parce que vous êtes le Robin de la recherche, Olivier.
Merci, c'est gentil.
C'est comme ça que vous êtes présenté.
Oui, c'est comme ça que j'ai essayé de finir, voilà. Comme mes collègues, faut donner des exemples qui parlent tout de suite à tout le monde et qu'on comprend instantanément parce que 180 secondes, si vous perdez votre public sur une phrase, c'est foutu. Ouais.
Quelle quantité d'investissement ça représente sur une année de thèse, ce concours, Sabrina?
En termes d'investissement, de préparation, on va dire, ça va s'étaler sur plusieurs semaines, mais en même temps, c'est pas un temps complètement dédié à cela. C'est-à-dire que c'est un texte qu'on va remanier, qu'on va repenser, et c'est surtout du plaisir. Donc, je compterai pas ça comme du temps de travail, mais plutôt une bulle d'oxygène dans le travail de doctorant.
Vous avez été 600 sur la ligne de départ quand même hier, hein?
Oui, tout à fait.
Donc 600 pour arriver, les trois derniers. Donc c'est un parcours quand même exceptionnel que vous avez fait, non?
Mais pour le coup, en plus du texte qui nous est vraiment très propre et spécifique, il y a toute une préparation. On a eu droit, en tout cas pour l'Université Grenoble-Alpes, à un coaching donc via la société Spontanez-vous qui nous ont aidés à mettre en scène justement notre texte et affronter le public aussi et synthétiser un maximum.
Vous pensez que l'expérience sera utile pour votre carrière de chercheur s'il y en a?
Je pense que, quoi qu'il en soit, le parcours nous apprend justement à valoriser nos travaux et à s'adapter en fonction du public et de l'interlocuteur.
Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Vous allez continuer dans ce domaine de la recherche ou pas tous les trois?
Ah, dans la recherche, moi j'aimerais poursuivre dans ce domaine-là, ouais. Mais j'avoue que la vulgarisation scientifique me tente énormément.
Tiens.
Ça aussi, on l'entend souvent.
Futur candidat pour la tête au carré, Davina.
Pour ma part, j'aimerais retourner dans l'industrie cosmétique. Toujours faire de la recherche, mais du coup de l'industrie. Et peut-être, et fort probablement, me lancer dans l'entrepreneuriat aussi.
Et Olivier?
Alors moi, je suis un peu plus âgé que mes deux collègues et du coup, je travaille déjà pour l'université d'Aix-Marseille. Donc je vais continuer et effectivement, moi aussi, j'aimerais bien me lancer dans l'aventure de la vulgarisation.
Eh bien écoutez, on est ravis, hein, parce que ça nous fait de nouveaux confrères peut-être pour les années qui viennent. On prendra de vos nouvelles, parce que c'est intéressant de voir comment chacun évolue aussi autour de ce concours. En attendant, vous avez Sabrina et Davina, la finale internationale à préparer, donc ce sera à Liège au mois de septembre, le 28 très exactement. Est-ce que vous allez modifier un petit peu votre texte ou vous allez rester dans les clous?
Mais pour Davina. Ma part, oui, je vais sûrement modifier la première phrase qui a pu vraisemblablement heurter certaines féministes. Mais
Quelle était cette première phrase?
Mesdames, mais aussi je suppose messieurs, vous avez tous un jour élaboré une vinaigrette, ou même tenté avec plus ou moins de succès une mayonnaise. Et effectivement, avec du recul, je me rends compte que ça peut... associer la femme à la vinaigrette, ça peut heurter, mais c'était de l'humour. C'était de l'humour pur et dur. Et justement, c'était un clin d'œil aux messieurs. Ben, vous aussi, hein, je suppose que vous savez aussi faire une vinaigrette.
Moi, j'avais entendu, vous aussi, messieurs, vous pouvez utiliser des crèmes de jour, pour le coup. Voilà. Donc, on peut le voir dans plusieurs sens.
C'est ça, en fait. Du coup, c'est peut-être de l'humour.
Bon, Sabrina, vous allez retravailler le texte un petit peu ou pas?
Je me pose la question, je ne sais pas encore.
Ça a bien fonctionné, pour le coup. Puisque vous avez remporté les deux prix. En tout cas, félicitations à tous les trois, et puis aux autres candidats, les 16 qui étaient hier sur scène, les 27 demi-finalistes aussi, qui ont fait vraiment un très très beau parcours. On peut retrouver l'intégralité des vidéos pour voir vos prestations sur la page Facebook de MT180. Donc ça, c'est en lien sur La Tête au Carré. Et puis bien sûr, on peut aller sur Twitter, on aura toutes les infos sur la soirée d'hier. Encore félicitations. C'était plus difficile de faire de la radio aujourd'hui ou d'être hier sur la scène du 104, Davina?
Oui, donc du coup, c'était plus stressant, pas plus difficile, parce que c'est très agréable d'être ici, mais plus stressant, oui.
Il y avait moins de préparation.
Il n'y
avait pas de coach.
Et ça, je ne maîtrise pas.
Voilà. Bravo en tout cas à tous les trois. Quatrième édition de ma thèse en 180 secondes avec le CNRS et la CPU et MT180, donc sur les réseaux sociaux, pour retrouver les vidéos de vos prestations.
On se retrouve lundi, Mathieu?
On se retrouve lundi, absolument. Allez, dans un instant, on parle des solidarités.
Tout me dit que tu mens, tout me dit comment tu te tais, tout me dit que c'est trop troublant pour ne pas être vrai. Tout en toi dit que je te plais, il faut sauter dans le grand bain, tout en toi m'a percuté, c'est un foutu coup du destin. Dis-moi ton secret, je te cacherai sous mon lit, je le protégerai comme un oiseau défend son. Donc dans la tête pour ne pas te lancer, rester figé à me mater. Mais qu'est-ce que tu attends? Car moi je n'oserai jamais. Il suffit d'un instant, clap de fin, le train s'est barré. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon lit, je le protégerai comme un oiseau défend son. Je les cacherai sous mon lit, je les protégerai comme un oiseau défend son nid. Tout en toi me tend à en trembler, tous mes signaux sont envoyés. Ne perdons pas notre temps, sois un homme et viens m'aborder. Tape sur l'épaule du destin, il te mènera jusqu'à moi. Laisse-le te guider, il te jettera dans mes bras. Je le cacherai sous mon lit, je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Dis-moi tes secrets, je les cacherai sous mon lit, je les protégerai comme un oiseau défend son nid.
Dévoilons à ton secret la voix d'Olivia Ruiz.
La tête au carré sur France Inter.
Les solidarités, les aidants, la question des engagements, donc au cœur de l'émission cet après-midi avec Véronique Châtel. Vous êtes rédactrice en chef de cette nouvelle revue Aider, dont le premier numéro paraît donc aujourd'hui. Vous avez publié également Je veux vieillir chez moi aux éditions Les Carnets de l'Info. Et puis Jacques Lecomte, vous êtes docteur en psychologie, président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive. Et vous êtes l'auteur cette année de ce livre Le monde va mieux que vous ne le croyez aux éditions Les Arènes, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur France Inter. Et sur ce mot-clé, l'attaque. Véronique Châtel, on estime, je le disais tout à l'heure, à 11 millions en France à peu près le nombre de personnes qui s'occupent d'un proche confronté à la maladie, au handicap ou à la vieillesse. 11 millions au milieu des 16 millions de bénévoles qui donnent du temps aux associations. C'est dans ce contexte très particulier que vous avez imaginé donc cette revue Aider.
Oui, vraiment. Pour avoir été une aidante moi-même, et puis pour avoir mené plusieurs reportages, vous parliez du oui. Je veux vivre chez moi dans le monde du grand âge. J'ai rencontré beaucoup de gens très âgés qui, parfois superbes, mais ils n'étaient superbes plus que pour eux-mêmes ou quelques-uns, parce que les gens très âgés, fragilisés, n'intéressent plus la collectivité. J'ai rencontré beaucoup de professionnels du grand âge des soignants, des auxiliaires de vie qui accomplissent un travail aux côtés de personnes fragilisées, mais dont le métier est totalement méconnu, voire même méprisé. J'ai rencontré beaucoup d'aidants, de proches aidants, un peu accablés par cette tâche, parce que c'est difficile d'accompagner au jour le jour un proche quand on s'isole. Enfin voilà. Donc il y a eu cette double trajectoire. Et puis il y a eu la rencontre avec un éditeur, Jean-Paul Arif, le directeur des éditions Scrinéo, qui s'est enthousiasmé pour une revue qui valoriserait cette expérience de vie, parce qu'au fond aider c'est quoi, on a tendance à l'envisager dans le prisme comme ça de la bonté, de la charité, de la compassion. Or aider c'est une démarche humaine, ça témoigne d'un intérêt d'un individu pour un autre quel que soit son état, et c'est pas de la non-vie que de le faire. Enfin, mon expérience d'aidante m'avait amenée à vivre cette expérience vraiment douloureuse d'entendre vivement que ça s'arrête.
Faut que tu penses à toi.
Faut que tu penses à toi. C'est pas une vie. C'est plus une vie pour toi. Tu te sacrifies. Et alors que, enfin, j'ai trouvé ça d'une violence. Ça a été plus dur pour moi d'affronter cela. Voilà.
C'est ça. Mais c'est tout à fait complexe. On va en discuter avec vous parce que c'est aussi une part de la réalité, ce que vous décrivez quand même, sur la difficulté pour les aidants, effectivement, d'être immergé un jour dans une vie qui n'est plus tout à fait la même. Et puis quand même, on va en parler avec vous, Jacques Lecomte, le fait de pouvoir aussi vivre des choses très positives autour de l'aide. Tout simplement.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a des situations extrêmes qui peuvent aboutir à, on appelle ça l'usure de compassion. Donc, quand on en fait trop. Mais dans la plupart des expériences de personnes qui s'engagent au service d'autrui, eh bien, eux-mêmes en tirent un enrichissement personnel, une satisfaction. Au point que certains disent qu'ils le font pour ça. Ce qui n'est pas vrai la plupart du temps. La plupart du temps, ils le font vraiment de façon tout à fait spontanée. Mais effectivement, toutes les études montrent que se mettre au service des autres, eh bien, il y a un effet en retour de satisfaction personnelle. On a l'impression d'être utile au monde et aux autres.
Jean-Paul nous dit sur franceinter.fr, la solidarité, cela dépend du choix de société. Aujourd'hui, l'esprit d'entreprise pour la réussite est beaucoup plus valorisé que l'aide sociale. Vous êtes d'accord avec ce constat?
C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je disais au début les bankable, c'est-à-dire que c'est ça, s'occuper d'une personne fragilisée, c'est comme si c'était contagieux au fond, et que soi-même, on était fragilisé et donc un citoyen moins intéressant parce qu'on perdait du temps. Donc en fait, les objectifs de cette revue, c'est vraiment ça.
C'est ça, oui. Et ça explique aussi ce que vous décrivez, le rejet au fond pour les personnes fragilisées.
Oui, alors bien sûr, ça exprime un rejet pour les aider, pour les personnes fragilisées, mais ça exprime un rejet pour les aidants, les proches aidants. Il y a beaucoup d'aidants qui, bien sûr qu'on en retire une satisfaction, et ce que je veux dire, c'est que mon expérience d'aidante, finalement, m'a amené à maturer un projet de revue. Donc on en retire quelque chose, on peut le métaboliser, on peut l'intellectualiser, on peut le remettre dans une dimension historique, d'humanisme,
on peut le transformer,
hein. Voilà. Ouais. Mais quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a plein d'aidants, des jeunes notamment, ont beaucoup de mal à dire, ont honte de dire qu'ils ont un parent malade, et parce que c'est difficile de supporter le regard des autres à ce moment-là.
Jacques Lecomte.
Oui, par rapport à cette vision de la société, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est de Laurent de Cherizet, qui lui-même a créé une association avec des aidants auprès de personnes qui sont handicapées, et qui dit, en gros, que la qualité d'une société, elle se mesure au niveau d'intérêt que cette société porte à ses plus fragiles. Je trouve que c'est à réfléchir, effectivement.
Mmh. Et surtout pour nous en France, où finalement c'est partagé par tous les pays occidentaux, il y a des cultures où justement on s'occupe mieux de ses proches.
Disons que aujourd'hui, on a tendance à remplacer la solidarité étatique, je dirais, par l'intérêt interpersonnel. Donc, ce qui est utile, hein, je ne suis pas en train de dénigrer cet engagement de la société et de l'État, mais je veux dire, il ne faut pas qu'on oublie effectivement les aidants. Voilà.
Ouais. La solidarité et l'entraide, c'est la même chose
La solidarité
et l'entraide.
Non, justement, je pense que précisément, il ne faut pas le mélanger, c'est-à-dire que l'État a son rôle à jouer, et c'est effectivement la solidarité, c'est-à-dire la redistribution des impôts au service des besoins de la société. Et puis l'entraide, c'est de s'occuper de son voisin, de s'occuper d'un membre de sa famille spontanément. Et je crois que les deux sont nécessaires et complémentaires, on ne peut pas dénigrer l'un au détriment de l'autre.
La solidarité qui parfois pousse à désobéir, extrait du film Welcome de Philippe Lioret, qui était sorti en 2009.
On a reçu ça de la brigade. On a aperçu mardi 18 février 19h10, place d'Armes, un véhicule de type Renault Clio grise immatriculé 5433 RS62. C'est le vôtre ?
Peut-être, oui, je sais pas.
Si, c'est le vôtre. En train de charger deux individus suspects, probablement des migrants. Vous confirmez ?
Quoi ?
Les avoir pris.
Et pourquoi ? Ils sont suspects de quoi ?
Aide à personne en situation irrégulière, c'est un délit. Vous les avez emmenés où ?
Vous êtes en train de me dire que j'ai pour apprendre des types en stop, c'est ça ?
Ceux-là, non. Il y en a pas loin de 500 aujourd'hui, sur la côte, qui cherchent à passer en Angleterre. Il en arrive tous les jours. Moi, on me paye pour que la ville devienne pas un camp de réfugiés en situation irrégulière. Donc je vous repose la question.
En quoi ça me concerne, moi ? C'est pas moi qui les ai fait venir, je sache.
Non, mais en les aidant, vous en ferez venir d'autres. On a des consignes très strictes pour pas que les Calaisiens commencent à donner un coup de main à ces types. Donc je vous repose la question, vous les avez emmenés où ?
Au cinéma.
Voir quoi ?
Un film anglais, pour qu'ils s'habituent à la langue.
Voilà la voix de Vincent Lindon, évidemment. Alors, nous avons choisi cet extrait avec Stéphanie Texier, Véronique Châtel, évidemment, parce que vous ouvrez le débat sur cette question. Où commence la désobéissance civile ? C'est vrai, vous rappelez qu'on est quand même dans une démocratie dont l'une des devises est la fraternité. Sauf que, effectivement, dans un cas comme celui-là, il faut désobéir aussi à la démocratie, en fond.
Oui, c'est toute la difficulté, effectivement, difficile à résoudre pour les citoyens, c'est où s'arrête finalement la fraternité, où commence le respect de l'ordre, de la République, où est-ce qu'on met le curseur, où est-ce qu'on et bon, selon, on a bien vu que selon les tribunaux qui jugeaient, tout le monde n'est pas d'accord sur la question, puisqu'il y a des personnes qui ont été condamnées pour avoir secouru
même.
Et d'autres qui ont finalement été relaxés. Donc c'est vrai que c'est une question de fond. Comment est-ce qu'on arrive à la fois mêler le rationnel, le juridique, à de l'émotionnel, à de l'empathie. Sujet, je regarde.
Absolument, Jacques Lecomte. C'est vrai que la fraternité, Jacques Lecomte, pousse à prendre des risques parfois.
Ah oui, tout à fait. Ben, disons que peut-être que le parallèle est un peu fort, mais faut pas se leurrer. Les migrants actuels, c'est des gens qui, pour la très grande majorité, ils fuient la mort, ils fuient le risque de mort. Et je veux dire, pendant la Shoah, des gens ont pris des risques pour des personnes qui fuyaient la mort. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a des questions. Bien sûr que beaucoup de migrants, ça peut poser un problème dans un pays, mais enfin, quand même, il y a des gens qui sont en situation d'urgence, de vie ou de mort. Et là-dessus, moi, pour ma part, tout cas, ces personnes qui en accueillent et qui les aident, eh bien, ils ont tout mon respect et plus que ça, mon admiration.
Et puis concrètement, on voit que ça pose pas forcément autant de problèmes qu'on pourrait l'imaginer. Voilà, les exemples le montrent absolument partout dans les communes de France.
Dans beaucoup de communes où ils sont reçus, eh bien, effectivement, ils s'intègrent petit à petit, ça pose pas de problème majeur.
Ouais, c'est une question d'empathie, au fond, d'être capable de venir au secours de quelqu'un et de déployer des forces pour aller même à l'encontre des lois, parfois.
Oui, moi je pense que c'est une question d'empathie, c'est une capacité, en tout cas, à un certain moment, à ne pas réagir d'une manière un peu moutonnière, formatée par rapport à un cadre. C'est une façon aussi de rester à l'écoute de son humanisme, de sa, et je veux dire, il y a des, on sait bien comment fonctionnent les sociétés autocratiques où si on respecte, qui détruisent la part d'humanisme chez les gens, le libre arbitre, la capacité à juger par soi-même à un certain moment d'une situation d'urgence et d'obligation d'intervention vers autrui.
Jacques Lecomte.
Oui, ce qui me semble important aussi dire, c'est que ce goût pour le fait de se mettre au service des autres, eh bien, c'est fondamentalement humain. Dans un ouvrage antérieur qui s'appelait La bonté humaine, je montrais que, par exemple, dans notre cerveau, nous avons des zones qu'on appelle de la satisfaction, de la récompense. Ces zones s'activent lorsqu'on fait quelque chose qui nous plaît beaucoup, lorsqu'on mange un plat qu'on aime bien ou lorsqu'on est avec des amis. Eh bien, on a des zones qui s'active, qu'on appelle zone de la satisfaction. Eh bien, elle s'active également dans les moments de fraternité, dans les moments de générosité, d'empathie, de coopération. Et donc, effectivement, ce n'est pas étonnant qu'on trouve du plaisir à être au service des autres, à se mettre au service des autres, parce que notre cerveau, en quelque sorte, il nous dit « ça me plaît que tu aides les autres, je suis content quand tu aides les autres, on est content, notre cerveau est content ».
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion entre solidarité et entraide, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Thing we like to do. There's always lots of things that we can see. We can be anyone we like to be. All those happy people we could meet just groovy on a Sunday afternoon. Way too soon. No, 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 no. We'll keep on spending sunny days this way. We're gonna talk and laugh our time away. I feel it coming closer day by day. Life would be ecstasy, you and me endlessly grooving on a Sunday afternoon. Really couldn't get away too soon. No, 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 no.
Grooving. The Young Rascals sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de notre Tête au Carré consacrée donc à l'aide et à la solidarité avec Véronique Châtel, rédactrice en chef de cette revue Aider et premier numéro donc dans les kiosques aujourd'hui, et Jacques Lecomte, docteur en psychologie. Les messages des auditeurs donc sur le site de l'émission. Il y a Marie qui nous écrit, elle nous dit ceci: je passe dans 4 jours ma thèse de docteur en médecine générale à Lille. Le titre de sa thèse, prise en charge des aidants de patients atteints de démence, pratique des médecins généralistes en région Nord-Pas-de-Calais. De quoi dit Marie rester informée jusqu'au dernier moment sur ce sujet tellement important, Véronique Châtel.
Oui, ben bravo, c'est super et enthousiasmant de savoir que des jeunes doctorants s'emparent de ce sujet et en font voilà un axe de recherche.
Faudra faire une interview de Marie peut-être voilà, pour un numéro de la revue.
Non, je crois vraiment à la vertu justement du récit des histoires positives parce qu'il y en a plein en France. Justement, vous disiez il y a 16 millions de gens
de bénévoles,
et donc ça traduit bien que nous ne sommes pas aussi individualistes. Égoïste que nous le disons si souvent. Donc bravo à vous de choisir ce thème parce que je pense que non seulement il est passionnant, il y a plein de choses à découvrir sur à la fois du côté des aidants que du côté des aidés. Ça provoque des relations tellement riches, mais en même temps c'est exemplaire. C'est une histoire exemplaire.
Jacques Lecomte.
Oui, il y a quelque chose d'important à savoir par rapport aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce que souvent, effectivement, ça fait souffrir les personnes qui les accompagnent, soit les professionnels, soit les membres de la famille, parce qu'ils ne me reconnaissent plus. Oui, mais en fait, la maladie d'Alzheimer, elle atteint la mémoire cognitive, mais elle n'atteint pas la mémoire émotionnelle, du moins beaucoup moins. Ce qui veut dire que, en fait, même si la personne ne reconnaît pas la personne qui vient l'aider, par exemple, ou vient faire sa chambre, eh bien, elle se souvient, sans savoir qu'elle se souvient évidemment, mais elle se souvient qu'elle a passé des bons moments ou des mauvais moments. C'est-à-dire que quand la personne rentre dans la chambre, eh bien, elle lui sourit si elle a passé des bons moments avec elle. Et inversement, si c'est la personne qui aide est désagréable, eh bien, la personne en face s'en souvient. Alors même qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça change tout, c'est-à-dire que dans des EHPAD, dans des maisons de retraite, par exemple, le simple fait de savoir ça fait que le personnel, eh bien, il continue à avoir du plaisir à travailler avec ces personnes. Parce que même si elle ne les reconnaît pas, en fait, elle les reconnaît émotionnellement.
Jean-Sébastien sur Twitter nous dit ceci, être aidant, c'est apprendre à être là tout en étant capable de s'effacer au bon moment. Alors là, vous en parlez aussi hein, sur l'équilibre aidant, aider, bien sûr. La relation, elle repose là-dessus aussi, absolument. Sur la difficulté de trouver cet équilibre.
Parce qu'il y a deux choses. Il y a à la fois la difficulté, l'obligation de ne pas s'oublier soi-même, puisqu'on voit bien que beaucoup d'aidants finissent par tomber malades, voire décèdent. Ça, c'est des chiffres qui nous disent. Mais la difficulté aussi de s'effacer à un moment donné réside dans le fait de ne pas considérer la personne fragilisée comme n'ayant plus aucune possibilité. Enfin, la difficulté, c'est de reconnaître la part d'autonomie des personnes, de reconnaître leur dignité et puis de pouvoir de faire en sorte dans son attitude que toutes ces dimensions de la personne fragile encore une fois soient respectées. Donc c'est très difficile d'être un aidant.
On va écouter d'ailleurs l'extrait d'un reportage qui avait été diffusé sur France 5 dans Enquête de santé et son titre était Aider un proche jusqu'à l'épuisement.
C'est toujours de l'attention. Il faut toujours faire très attention. Bon, c'est sûr qu'il faut beaucoup de patience. Et après, il faut toujours prévoir aussi, toujours prévoir en avance. Je pense que pour comprendre ce quotidien-là, il faut vivre ce quotidien.
Retraité, Daniel consacre la majorité de son temps libre aux travaux ménagers et à l'accompagnement de son épouse. Un sacrifice dont Christine, malgré le handicap, a pleinement conscience.
Et pourquoi j'ai attrapé cette maladie? Hein? Oh oui. Ça nous fait 37 ans bien. Puis tout d'un coup, je suis tombée malade. Et Daniel, Noël, il a bossé à cause de moi. Voilà. On s'aime, que voulez-vous qu'on fasse hein? On s'aime. Tu regardes aussi, hein?
Voilà, aider un proche jusqu'à l'épuisement. On voit aussi les sentiments mêlés hein, dans cet extrait, avec parfois aussi la culpabilité de la personne aidée, Véronique Châtel.
Oui, ben c'est sûr que la personne aidée, moi j'ai accompagné quelqu'un malade, d'une maladie chronique, qui s'inquiétait toujours, ça va, tu supportes, viens moins souvent me voir, je préfère que tu viennes longtemps, mais viens moins souvent. Enfin, c'était une personne qui cherchait toujours aussi rassembler ces demandes pour voilà je, pour pas déranger trop de fois. Donc c'est sûr que c'est puis ça quand on est un aidant, on le mesure aussi cette culpabilité. Du coup on a envie d'en faire encore plus. Enfin bon, c'est difficile de trouver le bon périmètre d'intervention.
Jacques Lecomte.
Oui, sur le fait de l'autonomie des personnes accompagnées, il y a eu une série de recherches qui ont été faites aux États-Unis, très intéressantes, dans des maisons de retraite. Et en fait, par exemple, c'est très très méthodologiquement très très sérieux. Et dans des chambres, on amène des fleurs. Et dans certaines, on dit aux personnes qui sont dans la chambre, eh bien, écoutez, voilà, on vous amène une fleur, on vous explique comment il faut s'en occuper, et c'est à la personne de s'en occuper. Et dans l'autre, on amène la fleur et le personnel s'en occupe. Ou alors, il y a une télé commune dans une salle et on propose aux personnes de choisir les programmes, ou alors on le choisit pour eux. Et on s'est rendu compte que dans les établissements où on laisse plus d'autonomie aux personnes, eh bien, ils vivent plus longtemps, elles ont moins de maladies. La mortalité diminue.
Oui. Alors justement, il y a un article sur l'épuisement des questions répétitives aussi dans cet échange aidant-aidé, hein, Véronique Châtel.
Oui, alors ça c'est vrai pour toutes les personnes qui aident une personne qui souffre de maladie Alzheimer ou apparentée, enfin démence. Et justement, alors c'est la psychoclinicienne, c'est une des, disons que c'est une des dimensions originales de cette revue, c'est que parmi les contributeurs, il y a des psys, des médecins, sophrologues, enfin des gens compétents. Il y a pas que des journalistes. Donc la psychoclinicienne qui a rédigé l'article raconte justement, donne des clés pour essayer de voir ce qu'il y a derrière la question répétitive et qu'au fond il y a souvent de l'angoisse et elle campe l'exemple d'un monsieur qui part en week-end avec sa femme, ils sont dans le train et 10 fois dans le train, mais on va où, puis s'énervant un peu, donc sa femme répond, enfin, et puis ne trouvant plus quelle stratégie imaginer pour calmer son mari et pour le, puis d'autant que le wagon commençait à être lui-même un petit peu agité, enfin bon, finalement elle a cette idée, elle lui dit nous rentrons dans 3 jours. Ne t'inquiète pas, nous rentrons dans 3 jours. Et au fond, elle avait compris la source de l'angoisse. Ce monsieur était paniqué parce qu'il quittait son environnement. Et au fond, il avait juste besoin qu'on lui dise qu'il allait retourner dans peu de temps.
Donc, il faut déployer des qualités de psychologie aussi.
Ah, oui.
Évidemment, ce qui n'est pas toujours facile quand on est vraiment dans l'action et dans la quotidienneté aussi de l'aide.
Oui, c'est ça. Mais disons que là, la force effectivement de cet exemple, c'est d'avoir perçu quel était le besoin, l'attente réelle de la personne en face. Et oui, ça, c'est une vraie qualité humaine.
Jean-Paul nous dit, avec le vieillissement des populations, qu'en sera-t-il dans 20 ans? Ben justement, d'où l'importance de mieux considérer aujourd'hui ces aidants.
Absolument, de mieux les considérer, mais aussi de mieux considérer l'aide et l'action de aider. Parce que je pense que l'une des clés pour que les aidants soient moins repliés aussi sur cette vie, parce que toute la difficulté des aidants, c'est que la personne aidée, finalement, on fait comme si elle n'appartenait plus qu'à la famille. C'était plus un citoyen. Enfin, je veux dire, il n'y a plus que la famille qui serait concernée par la personne aidée. Donc, je pense que l'un des challenges pour les années à venir, sachant justement l'augmentation de l'espérance de vie, le développement des maladies chroniques, etc., c'est que l'aide soit naturelle pour nous tous. Si une famille a un proche malade, etc., peut vivre dans un environnement avec un voisinage qui est attentif, qui peut aussi soustraire le responsable familial 2 heures pour lui permettre d'aller s'aérer. Enfin, ça, c'est très important. Mais pour ça, il faut donc qu'on reconnaisse aussi la fonction de l'aide et qu'on l'arrange pas dans du compassionnel, enfin tout ce qu'on dit depuis le début quoi.
Justement, il y a ce message de Lise: je suis aidante d'une maman âgée, 91 ans, maladie de Parkinson. Les conseils que vous citez, je les entends régulièrement, mais que faire? Je me dois d'être présente près d'elle, mais l'on prend alors conscience que l'aide et l'accompagnement n'existent guère, si ce n'est sur le net.
Oui, j'ai pas de réponse particulière à cette demande. Oui, c'est une réalité. C'est un constat qu'on peut faire effectivement.
Véronique Châtel.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait,
il y a peu de structures d'aide aux aidants.
Tout à fait. Et je pense que cette aide, on peut la trouver dans la collectivité. Donc moi, je crois beaucoup au développement d'une conscience collective de l'aide, de l'importance de s'intéresser aux autres et que on cesse de ne s'intéresser qu'aux membres de sa famille. Enfin, je veux dire, soyons un peu plus communautaires et collectifs dans cette affaire-là.
Voilà, c'est pour ça que je trouve que effectivement la naissance de cette revue, elle me semble très importante, parce que précisément les structures d'État sont importantes, mais elles ne sont pas aujourd'hui suffisantes. Elles doivent bien être complémentées par des actions personnelles, quoi, et de l'entraide sociale.
Autre exemple de solidarité avec une association qui opère entre autres à Paris auprès des sans-abri, c'est l'association Le Carillon.
Tout ce qui est SDF, j'ai toujours essayé d'aider, offrir un café, offrir un thé le matin, un sandwich à midi.
En plus, il offre désormais la recharge du téléphone et à chaque fois qu'un client consomme pour 15 euros, un sandwich ou deux boissons gratuits pour un SDF. Plus de 60 commerçants du quartier ont déjà rejoint Le Carillon et certains vont plus loin, comme cette propriétaire d'une boutique de cadeaux qui organise des collectes de produits spécifiques pour les femmes à la rue.
Ce matin, j'ai un monsieur qui m'a amené un sac entier avec des produits d'hygiène beauté qu'il avait collecté auprès de toute sa famille.
Je trouve que c'est très bien. Il y a une solidarité. C'est bien. Mais on ne connaît pas tous les commerçants, malheureusement.
Voilà, c'est dans le 11e arrondissement à Paris avec l'association Le Carillon. Et cette initiative a germé dans la tête d'un jeune homme de 27 ans qui s'appelle Louis-Xavier Leca. Il a voulu créer justement un réseau de solidarité, de retour de mission. C'était son souhait dans les pays en développement, Véronique Châtel. Donc on voit vraiment qu'il y a cette aide, cette solidarité intergénérationnelle.
Oui, et puis alors ce qu'il y a de curieux justement dans ces élans de solidarité, et quand on regarde qui sont les bénévoles aujourd'hui, on s'aperçoit que le pourcentage des moins de 30 ans... augmente.
C'est vrai.
Là, ce soir, par exemple, je vais suivre une maraude de Médecins du Monde qui est une mission SDF. Les trois personnes qui sont dans la maraude sont des gens de moins de 30 ans. Enfin, il y a un médecin, il y a un logisticien. Enfin, et ça, c'est très important. Enfin, c'est rassurant. Tout à l'heure, on parlait de culture. Je pense qu'il y a vraiment une culture de l'aide qui se met en place.
Jacques Lecomte, pour conclure.
Oui, écoutez, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des propositions d'une nouvelle action au service des autres, eh bien, il y a des gens qui répondent. Et ça, c'est systématique.
Et quelles que soient les générations.
Quelles que soient les générations. Moi, il y a aussi, par exemple, dans une maison de retraite, il y a des jeunes qui viennent pour apprendre l'informatique à des personnes âgées. Vous voyez, c'est... à chaque fois qu'on fait des propositions, il y a des gens qui répondent.
C'est la revue Aider, donc, dont le premier numéro paraît aujourd'hui. Et puis, Jacques Lecomte, ce livre aux éditions Les Arènes, Le Monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. Et puis, il y aura à Lyon cet été, en juillet, 7, 8 et 9 juillet, les dialogues en humanité au Parc de la Tête d'Or. Merci beaucoup à tous les deux. Sur France Inter, il est 14h47 et c'est l'heure de retrouver la campagne officielle pour les législatives.